chers amis, bienvenue avec les chantres de Bernanos qui sont autour de moi. Donc François, non. Si, François Angelier, voilà, très bien, non, j'ai eu raison.
Bonjour, vous-même, Jean-Pascal Attu.
Jean-Pascal Attu, donc petit-neveu de Bernanos, et Anne Bouvier. Et, vous venez ce soir parce que, d'abord, Bernanos vous réunit, et aussi parce qu'il y a un spectacle qui va bientôt être joué à l'Espace Bernanos, tiré d'un roman quasi inconnu de Bernanos, un roman qui n'a pas... était édité de son vivant et dont vous avez tiré, si je ne m'abuse, une pièce de théâtre que vous, Anne Bouvier, vous mettez en scène.
Oui, alors, j'ai co-adapté avec Christelle Reboul qui joue dans la pièce d'un mauvais rêve. Oui, c'est une adaptation que j'ai fait. On a commencé à travailler avec Christelle il y a une dizaine d'années. Ça a fait son chemin. Il y a eu plusieurs versions. Et la dernière en date a été reprise en main par Christelle, que j'ai validée. L'histoire, vous la connaissez. Donc
c'est un écrivain, voilà. qui a un assistant et une assistante. Il couche, voilà, avec l'assistante. Et l'assistant en est marre. Non, d'ailleurs, il aimerait coucher avec l'assistante, mais qui, elle, couche en fait avec l'assistant. C'est surtout un roman policier, en fait, que Bernanos commence à écrire. Et puis en cours de route, il a une meilleure idée, ça s'appellera Monsieur Wynne. Et puis en cours de route, il finit par pondre Sous le soleil de Satan. Il se dit que finalement, le roman policier, c'est pas forcément pour lui. Et donc, le livre tombe dans les oubliettes. Mais les gens disent que cette histoire est tout à fait fascinante parce que c'est le milieu littéraire des années 30, des choses où on n'imagine pas que des gens puissent quitter Grasset parce qu'il se passe un problème. À l'époque, tout le monde était chez Grasset. Et donc, ce qui vous a intéressé dans ce roman, qu'est-ce que c'était ?
Alors, moi, ce qui m'a intéressé, c'était qu'il y avait un ressort dramatique formidable, l'histoire d'une femme. C'est ça qu'il fallait faire, en fait, dans ce roman, c'est qu'il fallait essayer de tirer la substantifique moelle de cette histoire et qu'est-ce qu'elle nous racontait aujourd'hui. Et en l'occurrence... ça raconte l'histoire d'une femme qui est un peu sous l'emprise d'un écrivain qui est sa secrétaire et qui se pose la question de son désir de femme et elle se débrouille pas bien parce que justement c'est une femme qui ne se débrouille pas avec son désir et qui ne désire pas aussi bien les hommes que la création, puisqu'elle est à la fois la secrétaire de cet écrivain et à la fois elle nourrit toute la fiction des livres de cet écrivain. C'est-à-dire qu'elle est à la fois à l'origine la muse et à l'origine des romans et à la fois elle n'écrit pas. Donc elle est dans une frustration évidente et du coup elle va être dans une alors je me tourne vers toi Anne parce que toi qui as mis en scène la pièce tu as peut-être une autre vision de ce que tu as mis en scène mais à l'origine c'était un petit peu ce qu'on voulait faire.
Oui, moi ce qui m'a fasciné chez cette femme Simone c'est la modernité et aussi la multiplicité des identités, parce qu'on est tous et toutes multiples, et elle va se chercher, se trouver, ça me fait penser à une pièce de Pirandello d'ailleurs qui s'appelle « Se trouver », et il y a quelque chose aussi de l'actrice qu'on a un peu creusé aussi dans ce personnage, elle joue à être, elle essaie d'être.
Elle est remplie en plus de tous les personnages qu'invente l'écrivain, donc d'ailleurs à un moment donné elle s'en défend.
Complètement. Elle ne sait plus qui elle est parce qu'elle a trop de personnages en elle. Elle n'arrive pas à s'en débarrasser, contrairement à l'auteur qui, lui, au moins après, quand le livre est sorti, ça y est, alors qu'elle vit avec eux, elle les garde en elle. Et à force, elle ne sait plus qui elle est. Donc cette quête-là, moi, m'a beaucoup intéressée.
François Angeli, c'est effectivement éminemment bernanosien le fait de se dire que je ne sais pas qui je suis et rôde autour de moi des personnages qui sont prêts à m'investir et qui sont prêts à être à ma place et qui finissent par me posséder d'une certaine manière.
Oui, absolument, surtout dans Un mauvais rêve, qui est peut-être le roman le plus, avec Monsieur Wynne sans doute, le roman le plus noir qu'a fait Bernanos, puisqu'on vient de parler de ce personnage de femme, Simone Alfieri. Donc, qui est une séductrice, un personnage, on dirait aujourd'hui, toxique, d'ailleurs adepte toxicomane elle-même, qui est à la fois très intelligente, très conquérante, personnage envoûtant, qui a l'air d'avoir une position subalterne, puisqu'elle est au service de cet écrivain qui incarne tout à fait la vision, je dirais, négative et très noire qu'avait Bernanos de l'institution littéraire, puisque l'écrivain est une sorte de producteur régulier, comme ça, de débitant en littérature qui se nourrit de toutes les ingrédients qu'on lui remet, mais qui est un personnage vide, en définitive. Et ça, effectivement, ça annonce Monsieur Wynne. Cette espèce de vide vorace est très bien incarnée par l'écrivain qui est rempli des personnages qu'il traverse, mais qu'à aucun moment il n'habite. Il n'est habité par rien, si ce n'est par le vide. Mais par contre, il est traversé par toute une sorte d'univers fictionnel qu'on lui confie et qui travaille comme ça, dont il fait de la littérature commerciale. Et ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que le roman vaut pour le personnage donc, de l'assistant, dont le prénom m'échappe.
Olivier,
voilà. Et puis par Simone Alfieri, qui est un personnage fascinant, un peu mauriacien d'ailleurs. Enfin, on est là, si vous voulez, dans ces personnages de femmes qu'on retrouve aussi bien chez Mauriac ou chez Julien Green, c'est-à-dire des personnages noirs, un peu Aurévilliens d'ailleurs, un personnage que Aurévilly avait déjà conçu, la vieille maîtresse, tout ça, c'est un des romans posthumes, mais fascinant et très sombre de Bernanos. Alors,
nous sommes obligés de parler de l'actualité de la pièce et finalement des sujets qui fâchent. On sait que Bernanos, dans un certain nombre de ses romans, a échappé à cette dualité entre la pureté victimaire et la pureté criminelle. Si une femme sait prendre un curé de campagne aussi vide que l'abbé Donissant, c'est parce que peut-être elle est, j'ose dire le mot, coupable d'aimer trop l'amour terrestre, ou finalement l'aura qu'elle prête, ou que l'on peut prêter à un écrivain ou à un curé. Qu'en est-il de cette pièce? Est-ce que cette secrétaire n'a pas, derrière la figure de l'écrivain, finalement, un rêve, un fantasme? Est-ce qu'elle ne prête pas à une figure extrêmement temporelle, quelque chose qui peut ressembler à de l'idole? Est-elle purement innocente?
Je ne pense pas qu'elle soit purement innocente. Je pense que c'est un personnage absolument complexe.
Oui,
oui.
Maligne.
Elle a une forme de perversité. Elle est manipulatrice. Elle manipule beaucoup Olivier Mainville. Il le dit lui-même, je ne suis qu'un prétexte, alors pour toi. Elle n'est pas...
Olivier Mainville qui est l'assistant.
Qui est l'assistant, absolument. Donc, dont elle va être la maîtresse, mais en fait, il va simplement lui être utile pour son crime. Et puis, elle veut prendre le pouvoir aussi. Hein, c'est une femme de pouvoir. Elle prend le pouvoir sur l'auteur. Il me semble, donc elle dit, je veux signer, c'est moi qui, c'est vous avez utilisé ma vie pour écrire ce livre, c'est moi, il m'appartient à moi. Donc quelque chose de très vorace, quelque chose d'une virilité, je trouve, hein, une masculinité. C'est pour ça que ce personnage est très contemporain et très fort, très riche.
Dans cette adaptation, et donc le fait d'aller choisir le roman posthume, le roman que Bernanos a décidé de laisser dans les tiroirs, en fait, il y a le désir d'aller chercher une œuvre peu connue et de se dire voilà, ça fera c'est un joli projet puisque ça permet d'éclairer quelque chose que les gens connaissent peu, ou au contraire, vous avez l'impression que c'est beaucoup plus bernanosien que d'autres œuvres plus connues?
Moi, je pense que c'est très bernanosien. Ces personnages féminins sont des personnages, sont des mouchettes en puissance. Ce sont des femmes qui ont été victimes d'impostures à un moment donné dans leur vie, victimes des hommes, victimes d'humiliation, de trahison, et qui à un moment donné reviennent dans une période de leur vie, reviennent sur le devant de la scène, mais effectivement elles deviennent des criminels, pas dans tous les personnages féminins de Bernanos, mais en tout cas Simone pour moi est tout à fait un personnage bernanosien. Alors moi, je baigne un peu depuis mon enfance dans la littérature de Bernanos, enfin dans l'œuvre de Bernanos. Donc pour moi, c'est effectivement un livre qui est peu connu, mais quand même a traversé ma vie comme les autres. Alors c'est vrai que Sous le soleil de Satan, Journal d'un curé de campagne, Dialogue des Carmélites sont des œuvres qui ont été plus populaires, mais pour moi, Un mauvais rêve fait partie de l'œuvre, pleinement de l'œuvre de Bernanos, même si c'est Albert Béguin qui a récupéré les feuillets après. Hein, mais...
François Julien, sa biographie de Georges Bernanos rappelait comment il s'était fait ses armes dans le journalisme. Et on apercevait déjà, finalement, le romancier noir, on apercevait déjà l'explorateur des noirceurs de l'âme humaine. Parler de Julien Green, une sorte de Balzac souterrain, comme on disait d'Adrienne Mesura. Est-ce que ce livre, cette pièce de théâtre, n'est pas finalement un atelier de l'art bernanosien ? Cette friction au journalisme, cette attention aux faits divers, cet intérêt pour le roman noir, la ressemblance, par exemple, de Monsieur Wynne avec une enquête policière, ou encore de Sous le soleil de Satan avec certains codes du roman noir, est-ce que vous n'avez pas voulu mettre en scène une étape de la genèse de l'art bernanosien ?
Oui, je crois qu'il y a ça. C'est vrai qu'il y a cette démarche-là et je pense que dans le roman noir, alors en fait, on oublie qu'un mauvais rêve comme un crime aussi sont un peu des accidents de parcours dans la vie, dans l'œuvre de Bernanos, puisque c'est une époque, les années 30, début des années 30, c'est une période où Bernanos manque d'argent et est poursuivi par les huissiers. Il a quitté le sud de la France pour aller en Espagne et du coup il demande à son éditeur qu'est-ce que je peux faire pour avoir de l'argent vite et Plon les éditions Plon lui dit vous n'avez qu'à faire comme Simenon, vous écrivez des romans policiers et là
un par mois et vous devenez riche
en toute simplicité d'ailleurs et voilà il se lance là-dedans avec peu d'expérience et du coup ça donne un crime mais ça donne un mauvais rêve, cette espèce de mélange. Donc bien sûr que Bernanos met dans ces romans là il ne peut pas s'empêcher, et d'ailleurs Léon Daudet lui fera la remarque en lui disant vous n'avez pas pu vous empêcher de mettre des curés dans votre histoire alors quoi. Il s'agit normalement d'un roman policier, donc Léon Daudet peut espérer qu'il ne s'agit plus de curé. Et ben non, Bernanos remet sa sauce, si je puis dire, sa patte, en tout cas dans le roman policier. Mais c'est vrai qu'il y a une manière d'explorer beaucoup de choses dans ces deux romans, parce que l'un ne va pas sans l'autre, hein, un crime et un mauvais rêve. Moi, personnellement, je suis en train d'essayer d'adapter pour le cinéma un crime, donc pouvoir participer à cette aventure d'un mauvais rêve, pour moi, est tout à fait cohérent.
Alors, rappelons donc Un mauvais rêve sera joué à l'Espace Bernanos le 4, la Générale, et le 5, pièce normale. Voilà, donc, c'est pas la soirée de gala. Vous pouvez quand même acheter vos places pour la soirée de gala. Voilà, Un mauvais rêve à partir du 4 mai 2026.
François Angelier.
Ah oui. Oui.
Vous voulez répondre.
Oui. C'est très, très passionnant ce moment douloureux dans la vie de Bernanos. Et Dieu sait qu'il y a eu des moments douloureux. C'est qu'il était effectivement dans une dèche noire. Et Plon lui avait dit, à ce moment-là, écrivez sous pseudonyme des romans policiers commerciaux et à côté, continuez votre œuvre sous votre vrai nom. Alors, il n'a pas pu y arriver puisque n'est pas Simenon qui veut, mais Simenon disait n'est pas Bernanos qui veut, donc l'affaire ne s'est pas faite. Effectivement, Léon Daudet lui disait, oh là là, espacez les soutanes, Bernanos, espacez les soutanes, parce que c'est un peu trop le roman clérical. Mais ce qui est très intéressant de voir, c'est que à la même époque aux États-Unis, c'est la naissance du roman noir, d'Achiel Hammett, la revue Black Mask, avec des tonalités qui sont parfois bernanosiennes, ou si Bernanos, ça sera intéressant genre, de comparer les deux traditions littéraires, mais il y a énormément de... quasiment dans tous les grands romans de Bernanos, il y a une dimension policière et criminelle. la première, l'ouverture, de l'histoire de Mouchette dans Sous le soleil de Satan, c'est quand même un fait divers. C'est-à-dire, elle tue son amant à coup de carabine et après, on aurait pu faire un roman sur cette enquête. Il y a également ça dans Un crime, bien évidemment. Dans Monsieur Wynne, il y a quand même l'assassinat du petit Pastoureau la nuit. Il y a un crime. Donc, il y a régulièrement une sorte de filon criminel chez Bernanos, qui est un peu celui de Dostoïevski dans Crime et Châtiment. Donc, c'est très étrange, quoi. Il est à la fois totalement un auteur, je dirais, de l'humanité criminelle, mais c'est pas un auteur de polar.
Et d'ailleurs, il me semble
de récit policier.
Il semble que votre démarche, d'ailleurs, d'adaptation de Georges Bernanos, de ce qui n'est pas une pièce de théâtre, alors qu'on sait qu'il a écrit Le Dialogue des Carmélites et on sait l'adaptation de Francis Poulenc, révèle finalement un potentiel dramatique chez Bernanos. Vous parlez de ses romans, on pourrait parler de ses pamphlets également. On le voit dans Les Grands Cimetières sous la Lune, c'est quelqu'un qui arrive à mettre en scène une polyphonie de point de vue. Dans Les Cimetières sous la Lune, vous avez une espèce de coryphée conformiste de ce qui est inquiet, de ce qui explique qu'il faut aller soutenir l'Espagne franquiste, etc. Et vous avez effectivement la voix du tragique. Et dans les romans, on voit également ce déploiement qui est un déploiement authentiquement théâtral, que peut-être vous avez, ou vous allez, nous verrons, les auditeurs, réussir à révéler justement cette espèce de polyphonie bernanosienne. Il a une grande liberté presque hugolienne avec le genre, justement. C'est quelqu'un qui...
Je partage complètement votre analyse. Je trouve qu'il y a quelque chose un peu de claudélien aussi, qu'il y a une puissance, qu'il y a un souffle théâtral. Et moi, c'est ce qui m'a aussi beaucoup plu dans cette écriture. Déjà, le roman est assez dialogué. On sent qu'il y a déjà une appétence aussi au dialogue, à la complexité, encore une fois, des personnages, à une dramaturgie. Enfin, tout est là, effectivement, pour y voir du théâtre. Et je reviens sur votre notion d'atelier. On l'a absolument pensé comme ça, presque comme un puzzle où il y a un peu de tout. On retrouve tout ce qui fait l'œuvre de Bernanos. Et même, bon, vous verrez, j'espère, il y a même dans la façon dont on l'a mis en scène, il y a de ça, je crois. On parle de quelque chose de très brut, de très pur, et puis les choses se mettent en place petit à petit avec une certaine économie de moyens, mais qu'on a souhaité et dont on trouvait qu'elle allait bien aussi avec Bernanos.
Et elle va bien aussi avec le roman, parce que les personnages n'ont pas besoin de voyager, ils peuvent se contenter de se parler, de s'écrire des lettres. Je veux dire, on comprend bien qu'on puisse les réunir sur une scène. C'est plus simple d'adapter Un mauvais rêve que d'adapter Sous le soleil de Satan, où là on a besoin de marais, on a besoin de forêts, on a besoin de carabines, on a besoin d'une ville complète. Là, deux pièces et c'est réglé.
Complètement, et l'imaginaire a tellement sa place que c'est les spectateurs qui font le travail.
Ouais. François Angelier, on est quand même réunis aujourd'hui, en partie parce que ce sont les 100 ans de la publication de Sous le soleil de Satan.
Absolument.
Voilà, donc qui est le roman qui permet à Bernanos de sortir de la dèche, momentanément en tout cas.
C'est le roman de 1926, et le roman paraît début avril 1926. Bernanos a mis près de 9 ans à l'écrire, c'est-à-dire qu'il a commencé à l'écrire immédiatement après la Première Guerre mondiale, quand il est démobilisé, assez tardivement, en 1919 d'ailleurs, et qu'il commence à essayer de gagner sa vie comme inspecteur d'une compagnie d'assurance et après inspecteur en chef, puisqu'il aurait même pu faire carrière dans les assurances. Il était très bien noté et il était très apprécié. Et puis il décide de rompre et de mener la vie qui fut la sienne. Mais c'est un roman, on n'a pas véritablement, j'ai dit, de renseignements très, très nourris, très précis, journal d'écriture, de choses comme ça. On sait simplement que Robert Valéry Radeau avait régulièrement des manuscrits qui lui arrivaient de Bernanos, qu'il refusait en disant c'est ça, mais c'est pas encore le moment. Donc il y avait toute une espèce de germination, de maturation du génie bernanosien. Et puis alors effectivement, il faudrait voir avec les brouillons, mais là, on n'a pas tout ça. Je veux dire, on manque quand même de matériaux pour voir comment il en est arrivé à ce premier roman, avec notamment cette figure du diable qu'il réimpose en plein cœur des années 20. Rappelons-nous que les années 20, c'est les années du surréalisme, du bœuf sur le toit, du jazz. C'est les années d'après-guerre où on oublie les ruines, les morts et les charniers dans une sorte de frénésie avant-gardiste.
Et pour parler d'histoire religieuse, on sort à peine de la crise moderniste.
Et puis, alors, c'est la fin de la crise. On sort de la crise moderniste pour entrer d'ailleurs dans la crise de l'Action française, puisque la condamnation du pape, c'est la...
1929.
Je veux dire, on est quand même à la fois dans une... Mais bon, Bernanos est un peu éloigné de l'Action française à ce moment-là. Mais ce que je veux dire, on est dans une période où, grosso modo, Bernanos a tout pour faire véritablement une sorte de coup de gong, une espèce de déflagration puissante avec ce roman qui amène là des éléments qui avaient totalement disparu de la littérature. Je veux dire, ce diable Maquignon qui surgit la nuit dans un coteau d'Artois pour aider un curé paumé qui cherche la bonne direction pour aller remplacer un collègue confesseur, c'est tout sauf le roman des années 20. Et Bernanos, avec ce génie de météore, bam, tombe là, tombe sur la littérature française vraiment comme une sorte de vraiment, je répète, de météorite, quoi, ça. C'est une espèce de...
Et d'un succès quasi immédiat.
Et alors, voilà, et c'est ça le pire, si j'ose dire, c'est que le succès est énorme. Tous les articles, il y a près de 80 articles qui ont été publiés, ils sont sur les trois quarts positifs, voire très, très élogieux. Léon Daudet lance, je dirais, l'acclamation dans l'Action française. C'est à peu près pareil partout, quel que soit d'ailleurs le courant politique. Le roman est traduit en Europe très très rapidement. Donc véritablement, il y a une espèce d'insurrection bernanosienne qui se passe dans la littérature.
Alors, c'est vrai, donc ce personnage du diable n'existait pas. Dans une préface à un ouvrage que vous avez dirigé
et
salue les 100 ans de Soulzay et de Satan en demandant à une série d'auteurs contemporains toute une série de nouvelles, vous signalez l'existence du diable à travers des opérettes et des chansons populaires. Autrement dit, le diable est largement dévalué.
Absolument. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Je prends une date, je prends vraiment une date très précise et je regarde le catalogue général de la Bibliothèque nationale. Et je vois sur le même mot Satan, diable, qu'est-ce qu'on nous offre ? Et là, on a véritablement des choses. Soit le diable est une sorte de métaphore, alors bon, le diable, c'est là. Soit c'est un diable d'opérette, c'est un diable plaisant, taquin. Donc c'est véritablement cochon, voilà. Oui, voilà, un petit peu une publication érotique, un peu facile, opérette, ou alors comparaison entre le diable et la finance internationale. Enfin bon, chacun a un diable, mais c'est un diable après tout qui n'a rien de menaçant. Et Bernanos rappelle quand même à l'humanité lisante que, ma foi, le diable, ça peut être très très sérieux.
Lucien, vous avez consacré dans le journal de la littérature, si je ne m'abuse, si je ne me trompe. Toute une série sur Barbet d'Aurevilly.
Notamment sur Dieu et le diable.
Voilà,
absolument. Et également 4 épisodes sur le diable, la figure du diable en littérature, où il a été question.
Ok, donc c'est un moment d'autopromotion encore plus. Mais donc justement, Barbet d'Aurevilly, lui, mobilisait cette figure du diable. Et donc,
il y a ce titre.
30 ans avant que le Bernanos ne la réinvente dans le roman.
François Angelier a notamment parlé des fameux 3 B. Barbet, Blois, Bernanos, voilà. on vous doit cette Sainte Trinité. Et effectivement, il n'y aurait pas eu probablement Bernanos sans cette espèce de coup de poing et de réhabilitation métaphysique que propose Barbet d'Aurevilly, un diable qui en plus apparaît comme Bernanos, non pas au détour d'une haie ou d'un champ, mais dans le coin de la serrure, dans une alcôve, au détour d'un rideau. Pas un diable, effectivement, de rien du tout, folklorique, comme celui de l'abbat de Bismance, mais un diable qui, peut-être sans ses écailles, sans ses sabots, sans sa terreur baroque, sans sa force d'incarnation, reste effectivement une personne, reste une force métaphysique agissante. Et c'est peut-être la question qu'on peut vous poser. Dans une société qui finalement se bidonne de la moindre mention métaphysique, de la moindre idée qu'il puisse y avoir un vague phénomène qui ne soit explicable ou qui nous puisse échapper. Vous parliez effectivement des amours interdites, qui a des idées très très concrètes sur ce qui consent et ce qui ne consent pas, qui a des catégories extrêmement étanches sur à peu près tout. Est-ce que cette littérature métaphysique, cléricale, qui peut verser dans une forme de fantastique, etc., nous est encore accessible?
Pourquoi pas? Je veux dire, tout est possible en littérature, et Bernanos, en 1926, l'a prouvé. Aujourd'hui, effectivement, on peut écrire un roman qui met en scène un prêtre catholique qui, brusquement, devient le témoin de combats surnaturels, d'enjeux apocalyptiques, eschatologiques, ou qui fait l'expérience du mal et du bien. Absolument. Le problème, c'est le rapport qu'on a aujourd'hui quand on écrit avec la figure religieuse. Il y a très peu, quasiment plus aujourd'hui, de ce qu'on appelait les écrivains catholiques ou les catholiques de plume, il y a à peu près 50, 100 ou 100 ans. Mais pourquoi tout est tout à fait possible.
Moi, vous venez de décrire d'ailleurs les romans du père de l'écrivain O'Brien avec la série du père Elijah.
Absolument. Mais voilà. Par exemple, ça.
Inadaptable, rassurez-vous.
On trouve des figures, je dirais, moi, de par l'émission que je produis à France Culture, La Mauvaise Genre, je suis à l'écoute du roman policier, du roman fantastique, horrifique. Il y a notamment dans les milieux anglo-saxons une espèce d'interrogation, mais alors frontale et radicale, des figures du mal, des figures nocives, toxiques, vraiment l'horreur totale.
Le diable tout le temps.
Voilà, absolument. Et en France, beaucoup moins. En France, ça semble avoir quasiment disparu, mais c'est encore présent dans le monde anglo-saxon.
Mais Jean-Pascal Attu, on tire à pile ou face la prochaine fois. Jean-Pascal Attu, dans l'adaptation, dans la co-adaptation que vous avez faite de Mauvais Rêve, il y a justement, non pas le diable en tant que tel, mais il y a quand même l'existence du mal. Il y a Gans, cet écrivain, qui a l'air d'être une espèce de médium. François Angelier décrivait tout à l'heure la manière dont il est vide. Il est traversé en fait par un flux à la fois littéraire et marchand, et il utilise son assistante comme étant une espèce de catalysatrice en fait de cette puissance, et il y a vraiment une espèce de possession, et donc et c'est quand même ce mal à la française. On répugne effectivement à mettre en scène le mal, la nuit obscure, la grande ténèbre, enfin voilà, le croque-mitaine, voilà, on laisse ça aux anglo-saxons, voilà, qui aiment bien frémir en déchaînant les grands archétypes. Nous, on préfère une espèce de mal un peu plus insidieux, mais où on se dit en fait que le diable est véritablement la personne qui est à côté de moi, et peut-être même en moi, et c'est ça aussi qui est intéressant dans l'adaptation du Mauvais Rêve. Vous proposez un modèle de diable qui nous fait véritablement réfléchir, quoi.
Oui, la banalité du diable. C'est beaucoup plus accessible, c'est-à-dire c'est très concret. Là, c'est quand même l'histoire d'un écrivain qui se sert d'une jeune secrétaire pour essayer de faire ses livres, et elle est complètement perdue et devient diabolique. Et manipulatrice parce qu'elle essaye de sortir de cet engrenage et de cette prison dans laquelle elle est. Et du coup, c'est très concret. Le mal, le combat du mal et du bien et du mal, si connu chez Bernanos, il est mis. On n'est pas chez les curés, quoi. Y a pas le curé. Et voilà, on est dans quelque chose de beaucoup plus accessible, et c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi dans moi, c'est ça qui m'a intéressé aussi dans ce roman, c'est que ce sont des personnages qui sont abandonnés par Dieu. C'est vraiment des personnages qui sont livrés au mal, et il n'y a personne dans l'entourage, contrairement à d'autres romans de Bernanos, qui pourrait, il y a personne qui subitement va essayer d'élever un personnage vers la foi, par exemple, ou vers quelque chose, vers le bien. Non, c'est des personnages. C'est Bernanos lui-même qui le disait, sont des personnages au bout du rouleau, et ils sont tous au bout du rouleau. Donc, Bernanos livre dans cette pièce, enfin dans ce livre qui est devenu une pièce, et en parlant de la pièce, puisque elle arrive, elle est là, c'est vraiment une pièce qui parle du mal, qui en a fini avec le bien, quoi.
C'est intéressant, vous avez parfaitement raison. Ce sont des personnages au bout du rouleau, ce sont des personnages, alors je ne dirais pas abandonnés de Dieu, mais ce sont des personnages qui ne sont pas capables de trouver Dieu. Et en tout cas, oui. Bernanos, lui, n'est pas du tout capable, sur ce bouquin-là, de coller un prêtre, de coller une soutane, comme dirait Léon Daudet, mais même une assistante sociale, un camarade de jeu, quelqu'un qui se souvient de son catéchisme. Et c'est presque à cause de ça, peut-être, que Bernanos décide de ne pas fournir le bouquin. Il n'a pas réussi à instiller Dieu dans le roman.
Oui, c'est ça. C'est Dieu. Dieu n'a pas réussi son coup. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que pourtant,
j'aurais
Simone,
dit que c'est Bernanos qui n'a pas réussi le sien. Mais
c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que Simone, le personnage de Simone, sur le chemin de son crime, croise un curé quand même qui qui passe là en pleine nuit et qui est d'ailleurs une transposition d'un crime aussi. Enfin, ce sont des histoires qui ça fusionne, hein, un crime et un mauvais rêve. C'est vraiment deux romans qui sont très 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 similaires. Et du coup, je crois que ce prêtre qu'elle croise aurait chez Bernanos comme mission peut-être d'essayer de mettre un peu de grâce dans la folie de cette femme, un peu de bonté, un peu de d'élévation vers Dieu. Et non, elle est allée au bout de son crime, quoi.
D'ailleurs, dans cette rencontre entre le curé et Simone, on a le sentiment que le curé abandonne.
Oui.
Toute possibilité de faire renaître en elle quelque chose de l'ordre de la grâce. Il a peur. Et c'est elle qui le fait fuir, qui lui dit, ouais, « Je vous conseille de partir maintenant. » Et il part. Ouais. Ouais. Donc il y a effectivement ça. Il n'y arrive pas.
Bernanos, comme Barbet d'Aurevilly, ont proposé les figures de prêtres comme des figures de monstruosité. Vous prenez la croix du Gant, vous prenez le maître marié, vous prenez Donissant, vous prenez le journal d'un curé de campagne. Les figures des prêtres sont des figures absolument doubles. Et ça interroge vraiment, comme le disait Richard de Sèze, sur la place qu'accordent ces écrivains catholiques dont vous regrettiez l'effacement à la grâce. C'est-à-dire que la nature qu'ils décrivent est essentiellement pécamineuse, l'humaine nature est essentiellement faible, un peu incapable de résister à la flétrissure du péché originel. On revient quand même à cette question de la désacralisation contre laquelle Bernanos a lutté toute sa vie et qui fut d'ailleurs son testament intellectuel avec la France contre les robots. Est-ce que le maintien coûte que coûte, vaille que vaille, d'une foi religieuse, d'une adhésion dogmatique, croyance dans la surnaturelle, dans un monde qui évolue comme il a évolué, comme Bernanos l'a évolué, l'écrasement technique et machinique ne mène pas finalement à la déréliction, voire au désespoir. On a pu qualifier par exemple Bernanos, comme Barbet d'Aurevilly, d'écrivain janséniste.
Eh bien voilà une question qui est très simple. Et
vous avez 4 heures.
François Angelier, donc voilà. À vous, redoutable honneur de répondre.
Bernanos aurait revendiqué l'adjectif de janséniste. En tout cas, dans la dimension, je dirais, d'une tragédie de la foi, oui, ça c'est évident. Et je pense que Port-Royal devait le fasciner, bien évidemment. Mais c'est intéressant parce que cette figure de l'écrivain annonce à sa manière, sur un mode qui n'est pas le mode religieux, la figure de Monsieur Wynne. Monsieur Wynne, ce qui est formidable, c'est que on a l'impression que Dieu est mort, le diable a perdu son adversaire et le diable déprime, le diable s'ennuie, le diable lézarde, et qu'il n'est plus là pour affronter des curés, puisque les curés ont disparu. Alors malgré tout, dans Monsieur Wynne, il y a un curé extraordinaire. C'est la plus belle définition du diable, d'ailleurs, qui est donnée par le curé. Le diable, c'est l'ami qui ne reste jamais jusqu'au bout. C'est quand même... Si on creuse cette phrase au maximum de sa capacité de signification, c'est effrayant. Mais bon, c'est un peu ça, Monsieur Wynne, c'est que c'est une machine à faire le vide. C'est une espèce de machine à néantiser. Donc il y a une évolution chez Bernanos depuis cette arène, comme ça, qui sont les plateaux de l'Artois en 1926, en sous-soleil de Satan, où le personnage, il y a un face-à-face, frontal, caractérisé et argumenté. Je veux dire, chacun a ses arguments, chacun affronte l'autre, alors qu'à la fin, il y a une espèce de dissolution. Et peut-être que la dernière période, la période de l'après-Deuxième Guerre mondiale, c'est celle-là. C'est-à-dire une espèce de période où tout se dégonfle, tout pourrit, tout se délite. Et on n'est plus à l'époque du jansénisme, où il y avait un affrontement entre la foi et la perte de Dieu, ou entre le Dieu et le diable. Il n'y a plus rien. C'est ça, en définitive, je crois, la dernière ruse du diable, c'est comme disait l'autre, c'est de faire croire qu'il n'existe pas, c'est d'être dans un monde totalement désaffecté de Dieu.
Une conspiration, effectivement, ouais, contre la vie intérieure. Anne Bouvier, le personnage de Gans, l'écrivain, donc évidemment, on parle beaucoup de ce personnage féminin qui est très fort, donc qui concentre toutes les attentions du romancier et donc de l'adaptation. Gans, on a l'impression que c'est, quand vous parliez du diable un peu déprimé, on a l'impression que c'est lui le diable déprimé. En fait, il est là en train d'ourdir ses petites machineries. On lui demande plus de faire sombrer le monde, on lui demande juste de faire de la mauvaise littérature qui se vend bien. On le sent un peu dépité d'en être réduit là, quoi. C'est un peu Méphistophélès, épicier. Enfin bon,
oui, voilà, c'est le diable pris à son propre piège, dédiabolisé, je ne sais pas, il est devenu... Oui, il s'est vidé de sa substance, il s'ennuie, il se vide, c'est... Il n'est plus rien. Au départ, on a l'impression que c'est lui le rôle principal. Mmh. C'est dans, tel que est construite l'adaptation, on se dit, bon, c'est Gantz, et puis petit à petit, c'est elle qui arrive et qui prend le dessus.
En plus, c'est sur son bond, normalement, il est un petit peu porté sur les enfants. Il est, c'est lui aussi qui se fait flageller par un...
Ça, c'est plus...
C'est dans
Monsieur Wynne.
Ah non, ouais. Ça, c'est dans L'Imposture.
Ou dans L'Imposture.
Où
aussi,
il y a aussi, un personnage d'homme de lettres institutionnel complètement décadent.
Oui.
Un personnage qui revient pour lui parler et tombe sur des scènes.
Oui, et dans Monsieur Wynne, quand même, il termine le professeur termine la nuit, enfin, passe la nuit avec ce petit garçon dans la chambre, quand même.
C'est les monstres bernanosiens, et on peut dire qu'ils apparaissent avec L'Imposture, donc, et ils meurent avec Monsieur Wynne, si j'ose dire. C'est une forme de gros monstre mou. Enfin,
les enfants et L'Imposture, c'est très, très présent chez Bernanos. Les enfants face à L'Imposture adultes, ça c'est vraiment quelque chose de très, très fort aussi. Mais non, là, dans le cas de Gantz, effectivement, on est dans un personnage absolument vil, vraiment très très fier de lui, fat et sans aucune espèce de d'intérêt pour l'être humain, quoi.
Effectivement, ça paraît assez diabolique, c'est bien.
Voilà. Ouais.
Orgueilleux et sans intérêt.
Oui, orgueilleux et sans intérêt.
Jean-Pascal, on sent que vous maîtrisez Bernanos sur le bout des doigts. Voilà, c'est presque familial. C'est une obligation.
Quand on est en face de gens comme Angelier,
ça fait partie.
On se rhabille. Hein.
Ça fait partie là. Non, mais restez. ça fait partie d'un héritage. Dans la co-adaptation que vous avez menée, est-ce que vous vous êtes nourri justement de toutes les autres œuvres? Est-ce que vous avez glissé dans votre mauvais rêve, vous citez depuis tout à l'heure l'autre nouvelle en parallèle, un crime. Voilà. Est-ce que ça a influencé votre travail d'adaptation au point de changer un peu la matière bernanosienne stricte du mauvais rêve pour y ajouter d'autres résonances?
Je pense que de toute façon, il fallait casser la narration de ce livre pour en faire une pièce de théâtre. Ça, c'est certain. Après, oui, bien sûr que la connaissance des autres, enfin de l'œuvre de Bernanos aide toujours pour comprendre, pour tordre, pour détordre, pour gonfler les choses ou pour au contraire les enlever. Donc oui, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple et à la fois peut-être pas tant que ça, parce que plus on connaît les choses, plus on connaît l'œuvre, plus on a envie de la garder un peu intacte. Et c'est dans le cadre d'une adaptation aujourd'hui au théâtre, je pense que c'est bien aussi de casser les murs, quoi, et de refaire un peu une nouvelle trame et une nouvelle façon. Et je pense que c'est ce que Christelle a voulu en tant que comédienne jouant Simone, et avec Anne, je pense que c'est aussi ce que vous avez souhaité faire, c'est essayer de donner un autre visage, et on peut raconter, je pense, un mauvais rêve en regardant la pièce, on peut la raconter différemment, si on le souhaite, du roman. C'est pas, du coup, tout est là, mais on peut raconter différemment. Et du coup, c'est un peu un focus, la pièce, c'est un peu un focus dans un mauvais rêve, et c'est un mauvais rêve de toute façon. Cette pièce est un mauvais rêve, c'est un cauchemar ce qu'elle vit, et ce qui se trame entre les personnages, c'est un vrai cauchemar, et en ça il y a quelque chose de très diabolique, quoi. Ça,
très intérieur, finalement.
Très intérieur, oui.
Oui, c'est très initiatique, c'est un parcours très très intérieur, absolument très intime qu'elle fait là. On ne sait jamais si elle est entre la réalité et la fiction, ça aussi qui est très troublant, qu'on a essayé aussi de travailler, que le théâtre permet, dans cette chose qui est très réelle, très vivante, et en même temps qui pousse vers l'imaginaire. C'est aussi, je pense...
Et c'est vrai qu'on a eu aussi une Christelle Reboul qui est absolument formidable, et qui porte quand même Simone Et ça, ouais. Et c'était pas simple parce que elle est tout le temps sur scène, quoi, hein, du début jusqu'à la fin. Donc, il n'y a pas de scène sans elle, dans mon souvenir. Enfin, il n'y a pas de scène sans elle. Donc, c'est un courage incroyable qu'elle a eu de tenir ce rôle. Et je pense qu'elle doit chercher à chaque représentation, elle doit chercher des choses pour amener le personnage encore ailleurs, et parce que il y a un champ des possibles incroyable, hein, dans ce gouffre de Simone.
Elle parlait de Phèdre, non, c'est une Phèdre,
oui.
À l'envers, ou je sais plus,
espèce de Phèdre à l'envers, ouais. oui
bon. Très bien, une Phèdre à l'envers.
Est-ce que la Phèdre était à l'endroit?
Si avec ça, on n'a pas envie d'y aller.
Simone Alfieri. Donc, il y a le Fieri, c'est un poète italien. Et donc, il y a toute l'idée d'une espèce de ruse cruelle. Parce que l'image que Bernanos avait d'Italie n'était pas spécialement, je dirais, toujours favorable. Surtout l'Italie renaissante. Donc, oui, le personnage a une sorte de ruse méchante et d'habileté séductrice et un côté serpent. Hein, c'est très...
oui. Mais on doit parler quand même des deux autres acteurs, Olivier Clavery qui joue Gans et François Nimbault qui joue Olivier.
Olivier Mainville.
Et qui forment un trio absolument, absolument incroyable.
Formidable. Ouais,
c'est ça, ils se sont bien compris tous les trois.
Ouais, ils ont plongé dans l'univers.
Ah ouais, ouais,
ils ont Bernanos.
Plongé tous les trois dans un univers incroyable. Et c'est vrai que la mise en scène aussi, moi j'ai découvert la mise en scène parce que je voulais pas venir pendant les répétitions. Je voulais pas faire de l'intrusion parce que de pas retrouver certaines phrases peut-être ou certains passages. Et je suis arrivé à l'avant-première et un peu avant l'avant-première à un filage et j'ai trouvé vraiment la mise en scène absolument sublime, et la lumière de cette pièce, elle est très particulière. J'en ai jamais vu au théâtre une lumière comme ça, et je pense que tu as vraiment su retranscrire le mauvais rêve dans toute sa splendeur. Quoi.
Ben merci.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure sur ce mélange de réalité et de fiction. Ouais. Et c'est vrai que l'espace Bernanos, avec cette salle un peu en profondeur et ces éclairages qui permettent visiblement, pourvu qu'on soit un metteur en scène de talent, d'en tirer le meilleur parti, se prête bien à ça. Je voudrais revenir, François Angelier, sur un livre dont on n'a pas encore assez parlé. Voilà. Un jour, Le Diable, qui est une série donc de nouvelles. Vous avez demandé à des auteurs contemporains pour célébrer les de Bernanos. Il y en a deux ou trois qui m'ont fait vomir et qui sont vraiment...
J'ai presque envie de vous dire, ça me rassure.
Voilà. Donc, je ne sais pas si j'irai jusqu'à recommander l'achat du bouquin. Voilà, parce qu'il y en a la moitié. Vraiment, voilà, je pense qu'à moins d'être un rat, on a un peu de mal. Mais il y a une nouvelle de Bernard Querini qui est vraiment excellente. Avec notamment toute une série de petits conseils du diable, de petites pensées du diable. Brigitte Macron confiait récemment dans un collège qu'elle écrivait ses pensées, elle recommandait d'écrire ses pensées. On aura peut-être un jour la chance d'avoir les pensées de Brigitte Macron, mais là, c'est le diable qui parle à Jean-Jacques, ou plutôt c'est le diable qui est Jean-Jacques et qui parle au personnage, et il lui dit des choses comme « quand j'ai de l'influence sur quelqu'un, son visage se déforme ». On sent dans ce répertoire de pensées diaboliques une réflexion de la part de Bernard Querini sur ce qu'est le mal au quotidien. J'apparais sitôt qu'un homme oublie Dieu et je triomphe quand il le défie. Quand j'ai parfois si bien modelé un homme qu'il est devenu un monstre, un parfait dépravé, je le méprise un peu. C'est
absolument
vraiment génial.
Mais ça, c'est le génie de Bernard Querini, qui est sûrement notre grand conteur fantastique aujourd'hui. Ça, je recommande, je ne sais pas si je peux me permettre de recommander aux auditeurs.
Ah, vous êtes pas pour ça.
Non, faut lisez les livres de Bernard Querini, qui est vraiment un très grand conteur fantastique. Mais l'histoire de ce livre est simple. Donc, j'ai, comme tous les Bernanosiens, repéré le centenaire de Sous le soleil de Satan. Je me suis dit, il faut faire quelque chose pour, comme on dit, marquer le coup. Alors, faire un colloque de plus, bon, j'ai rien contre les colloques, j'ai participé à de nombreux colloques, mais bon, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? je veux dire, tentons le coup de demander à 9 auteurs. Alors, j'ai pris parmi les auteurs les plus violents, les plus fantastiques, les plus fantasmatiques que j'ai pu rencontrer dans ma carrière de producteur de radio, de partir sur ce simple enjeu. Une créature rencontre le diable. Aujourd'hui, en 2026, quand on dit à un écrivain, une créature rencontre le diable, qu'est-ce que ça vous inspire ? Donc après, le résultat, ne me regardez plus, au sens où je veux dire, c'est à l'écrivain de jouer sa partie. Et alors effectivement, on aime ou on n'aime pas, parce que ce soit Christophe Beer ou Bernard Quirini, c'est pas la même chose, que ce soit...
Nicolas Chemla, Sébastien Lapacque, autre grand bernanosien.
Voilà, absolument, oui.
Alors Sébastien Lapacque termine le livre en imaginant un sermon.
Absolument.
Mais c'est son genre. Oui.
Mais voilà, la nouvelle où un type adepte de fétichiste des pieds se retrouve lui-même transformé en bottine,
voilà,
avec la très longue description de la manière dont un chien mange ses viscères pendant que lui-même est, comment dire, tanné, eh bien, c'est un peu dégueulasse.
Voilà, c'est l'aspiration
c'est de Christophe. C'est votre côté collier de perles.
Il y a 3 nouvelles qui se passent en Belgique, Jean de Saint-Chéron, Esther Teilhard et Caroline de Mulder. Et alors, il y a deux textes, parce que quand j'ai reçu les textes, je me suis dit, bon, il faut organiser. Et en définitive, me sont apparus 2 cycles qui commencent par des nouvelles, des considérations réalistes. Alors, Quirini, Excel ou d'autres pour le deuxième cycle, et ça se termine par des véritables espèces de symphonies presque cosmiques, je ne vais pas parler de Thierry de Chardin, mais enfin des choses qui interrogent le diable sur le mode d'une sorte de symphonie lyrique. Alors, ce qui montre qu'aujourd'hui, quand un écrivain est confronté à la figure du malin, soit ce sont des petits contes très percutants, très incisifs comme Quirini, soit des chants cosmique comme on en fait, donc Fanny Wallendorf ou Jennifer Kerner, ou alors des nouvelles effectivement érotiques comme Christophe Beer, ou des espèces de visions cauchemardesques comme Nicolas Chemla. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on parlait de la disparition du roman catholique, du roman avec prêtre. C'est intéressant quand même de voir ce que des auteurs qui sont étrangers à cette inspiration font de ce grand thème satanique.
Alors, l'une des nouvelles est tout à fait surprenante parce qu'en fait, le diable essaye de corrompre la nature, et notamment, il essaye de faire en sorte de faire basculer l'univers entier des champignons de son côté.
Absolument.
Alors, et là, pour le coup, c'est une nouvelle qui est absolument stupéfiante. D'abord, je trouve que l'auteur est allé chercher une inspiration dans un endroit un peu étonnant. Imaginez qu'après avoir corrompu l'homme, il ne reste plus qu'à corrompre les champignons. Et les champignons qui résistent et qui finissent après avoir mis en scène, d'ailleurs, d'un point de vue typographique très intéressant, le silence des champignons, la résistance des champignons, les champignons finissent par prendre la voix et expliquent au diable donc qu'ils seront du côté de l'humanité et contre lui. Et c'est l'une des nouvelles les plus stupéfiantes.
Absolument.
Et là, pour le coup, qu'on lit avec parfois un peu d'hésitation, parce que c'est vrai que l'auteur mobilise un vocabulaire de mycologue particulièrement précis. donc on n'ignore rien de la manière dont les spores se dispersent, c'est un traité de champignonnerie. Et dont vous, j'ai parlé de ce recueil, mais du coup je sens que je vais être obligé de réciter toutes les nouvelles, y compris celles que je n'ai pas aimées, donc je vais épargner les auditeurs de ces descriptions. Dans la manière dont vous avez abordé le personnage de Gans, cette adaptation, est-ce que vous-même, vous vous déclareriez bernanosienne convaincue avant la pièce? Est-ce que vous êtes devenue bernanosienne en l'adaptant? Est-ce que c'est juste une pièce que vous avez mise en scène sans que pour autant vous ayez éprouvé le besoin de tomber amoureuse de Bernanos? Je trouve que les bernanosiens sont parfois un peu une espèce de secte religieuse pénible qui exige qu'on adore leur dieu et qu'on brûle l'encens devant ses autels.
Oui, complètement, de cet ordre-là.
Vous me pardonnerez.
Moi, je ne connaissais pas bien Bernanos.
Une secte religieuse, forcément.
Une secte. Peut-être.
Ce serait dur pour Bernanos qui détestait tout ce qui était secte et, repli sec et égoïste.
Moi, je suis tombée amoureuse de Bernanos, vraiment, je ne connaissais pas bien avant de me plonger là-dedans. Et en plus, c'est arrivé à un moment de ma vie où c'est des signes et c'était le bon moment pour moi, la rencontre avec cet auteur, avec cette œuvre. et je vais continuer à découvrir, à explorer. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup réfléchir. Et vous parliez de la métaphysique par rapport à l'intelligence artificielle. Je me demande si ça ne peut pas être une réponse aujourd'hui, la métaphysique, n'est-ce pas ? Peut-être c'est ce qui pourrait nous sauver, je ne sais pas.
Alors, l'actualité de la pièce, on aurait pu en parler, comme l'actualité de Bernanos, et vous êtes également un connaisseur de Barbey d'Aurevilly. On vit une grande révolution sexuelle aujourd'hui. Et on se demande effectivement désormais si on ne pourrait pas requalifier les différentes violences sexuelles, notamment par rapport à cette question de l'emprise. Une question que traite, il me semble, Bernanos dans cette pièce, comme bien sûr dans Le Soleil de Satan, et Barbey d'Aurevilly. Puisque vous prenez une histoire sans nom, c'est un viol. Ce n'est certes pas un crime sordide avec une lame et un couteau, etc., mais c'est authentiquement un viol. Et le lasténisme, c'est la mort, certes, d'une blessure physique, mais aussi, et là c'est peut-être le scandale bernanosien ou aurevillien, aussi de la culpabilité. C'est une question que pose également Bernanos, peut-être dans cette pièce, également dans Sous le soleil de Satan. Est-ce qu'on ne meurt pas de ce quelque chose en nous à désirer ?
Non, mais le mot d'emprise est un mot absolument parfait pour définir, je dirais, la dimension, enfin la nature bernanosienne du mal. C'est une littérature de l'emprise. Tous les personnages sont littéralement asservis. Par justement des puissances qui incarnées qui les dépassent. Et vous citiez une histoire sans nom, l'asthénie de Ferjol, c'est sûrement ce qu'il y a de pire, puisqu'elle est victime d'un viol en état de somnambulisme. Mes souvenirs sont exacts, en plus commis par un prêtre. Et donc elle n'a pas la mémoire de ce qu'elle a subi, mais elle en a la culpabilité. Et à la fin, pour ceux qui n'ont pas lu ce texte absolument, alors là, vous parliez de textes ultimes, de textes limites qui sont à la limite de la résistance du lecteur. C'est quand même un
texte... Vous n'y arriverez pas, Richard, je vous le déconseille.
C'est un texte ultime.
Alors, je tiens à dire, parce que je suis un critique sérieux, que j'ai tout lu, mais que je n'ai pas aimé. Dans Sous le soleil de Satan, à un moment donné, le prêtre se rend compte qu'il est capable de découvrir le secret des âmes. En fait, et d'ailleurs, le diable lui dit, c'est vraiment dommage que cette capacité incroyable te soit donnée à toi, qui est quand même un peu un minus abins, un crétin. Donc être capable de mettre les vies à plat et de voir l'ensemble des existences dans tous les linéaments les plus délicats exposés, que tu sois capable de les comprendre, c'est vraiment une pitié. Et quand on fait ce travail d'adaptation, on prend l'œuvre, là, on la met à plat, on la détricote, on a aussi cette espèce de point de vue omniscient qui est celui du héros de Sous le soleil de Satan.
Oui, complètement. Denisson lit dans les âmes nous, on a lu dans l'inconscient, dans le conscient et dans l'inconscient de Bernanos. Et ce qui était absolument époustouflant, c'est de relire 15 fois un chapitre et de, à chaque fois, découvrir entre les lignes, entre les mots, ce qu'il a voulu dire et ce qu'il a mis entre les... Mais c'est un peu souvent chez Bernanos, c'est que subitement, il y a des lectures, il dit des choses entre les lignes, mais qui sont mais d'une puissance absolument incroyable. Au début, on le lit droit, donc on a quelque chose comme ça, une lecture droite sur c'est une narration. Et en fait, avec les virgules, avec les adjectifs, etc., il y a des sous-entendus. Et ça c'est extraordinaire parce que du coup ça aide à la compréhension effectivement de Bernanos et ça permet de lire véritablement qui sont ces personnages en fait et ce qu'ils ont vécu et il y a des choses vraiment qui sont qui sont données de façon très discrète, très sournoise comme ça derrière les mots, derrière les phrases et ça a été avec Christelle Reboul, ça a été vraiment un grand, grand plaisir. Et je crois encore dans les lectures, dans les dernières lectures qui ont eu lieu il y a quelques mois, c'était avec la mise en scène venant.
C'était encore surgir d'autres choses, d'autres points de vue, d'autres façons de lire. C'est abyssal, c'est vertigineux. C'est pourquoi on passe des poupées russes comme ça. C'est sans fin. C'est ça qui est génial. Russes, ouais.
Et en même temps, ça va être terriblement frustrant. Il y a un moment donné, vous l'arrêtez, votre mise en scène.
Voilà, c'est ça. C'est le 4 mai. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'on sorte quelque chose. Mais le travail quotidien, c'est ça qui est beau au théâtre.
Vous parlez beaucoup des imbéciles. La lecture de Bernanos ou de Barbey d'Aurevilly nous fait sentir notre imbécilité profonde. Comme vous le dites, on peut le relire pour la 10e fois, la 12e fois, mais on se dit, mais comment il a réussi à trousser cette phrase? Quel connard Et vraiment, pour le coup, il y a un sentiment de limite qui est en fait... En tant qu'artiste et en tant qu'auteur chrétien, qui n'est pas si loin de ça, celui de l'art de l'incarnation. C'est-à-dire que plutôt que de dire les choses explicitement, il a ce talent de nous faire entrer dans un continent invisible et inconnu, justement, par un adjectif qui a comme une valeur de présence réelle, une virgule qui peut avoir comme une espèce de relique sainte, vous voyez. Mais cette fois-ci, ça passe par les mots plutôt que par les objets ou l'art figuratif.
Complètement. Et l'incarnation, c'est quand même le propre mot du théâtre. Donc c'est là où ça se rejoint.
Et c'est là où
où il y a une connexion, en tout cas.
Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est la manière dont il travaillait et ce que lui coûtaient ces mots que nous, aujourd'hui, nous disons.
Vite fait.
Comme ça. C'était cette solitude dans les cafés. Parce que Bernanos ne pouvait pas écrire chez lui parce que c'était le carnaval familial. C'était pas possible. Il écrivait dans les cafés. Au milieu de la rumeur du percolateur, des plaisanteries des consommateurs.
Pour ne pas être dupe.
Pour être au sein de l'humanité, mais concevant une sorte de cocon, comme ça, il s'isolait et il descendait en lui-même dans des profondeurs dont on n'ose pas rêver, puisque ça devait être redoutable. Et là, il trouvait comme ça qu'il laissait le temps venir, il laissait ses créatures croître, comme ça, maturer, et puis les personnages naissaient et se développaient, et autour de lui, il y avait le bruit du café. Et que ce soit le café à Paris, à Rouen, même, il commençait déjà à Rouen à l'époque, il n'était pas encore romancier, mais que ce soit partout où il habitait, dans le sud, ce soit
au Brésil,
à Majorque, il y avait toujours cette espèce de solitaire comme ça qui était là. Et qui était dans une sorte et qui néanmoins participait à la vie du café.
Il disait lui-même qu'il voulait pas être dupe de personnages imaginaires comme ça qui n'auraient pas de lien avec la réalité. Et du coup, le fait d'être dans des cafés, ça lui permettait d'être en contact avec les gens, quoi, avec les visages. Et du coup, il regardait les...
Et le café est dans les pamphlets comme dans les livres, puisque l'ordinaire bêtise, le point de vue de l'imbécile, ou même un point de vue conventionnel, prudent, etc., il est finalement en permanence en dialogue avec la voix de l'auteur, avec Bernanos. Donc c'est vrai que ce que vous dites sur le travail de composition, géographiquement, est intéressant.
Parce que c'est le contraire de la tour d'ivoire, justement... l'homme de l'être traditionnel, et j'ai envie de dire officiel, qui est dans le bureau. Tous les grands écrivains de l'époque se faisaient photographier dans le bureau, entourés d'une véritable bibliothèque colossale. Bernanos écrivait dans un bistrot avec des cahiers d'écolier, une petite plume, et il y avait sa moto qui était garée à l'entrée.
Et puis au milieu, il avait quand même 6 enfants. il se retrouvait dans le fin fond de l'Amazonie, dans des petites cabanes.
Cabane du jardinier.
La cabane du jardinier, voilà. Et à Vassouras, la fameuse cabane de Vassouras. Mais ça braillait autour de lui, hein, ça braillait. Il y avait des gens qui s'occupaient du bétail, etc. Mais il avait besoin à la fois d'être isolé par rapport à la civilisation et à la fois il avait besoin de bruit, il avait besoin de vie autour de lui, quoi.
Il avait besoin de vie et effectivement, cette vie intérieure surgissait des tréfonds de son âme que vous avez non pas décrit, mais vous avez juste soulevé le couvercle. Voilà. D'autres donc sont allés au fond de rame. Certains sont d'aimables compagnons et d'autres ne les croisaient pas. Et un jour, le diable aux éditions Séguier, sous la direction de François Angelier, à qui on doit, vous l'avez rappelé, Lucien Rabouille, une biographie de Bernanos.
Aux éditions du Seuil.
Voilà.
Qui
fait référence, comme on dit aujourd'hui.
Charles de Sèze n'ose pas conseiller mauvais genre sur France Culture, car il aurait peur de faire peur à la concurrence, mais nous en sommes quand même auditeurs depuis plusieurs années.
Je conseille vivement la pièce Mauvais genre à l'Espace Bernanos. Voilà. Ça commence la semaine prochaine, le 4 mai. Et sinon, Mauvais genre, vous pouvez acheter le livre dans plusieurs
émissions radio concurrentes.
Notamment celle du Castor Astral, qui est assez sympathique.
Castor Astral, tout à fait. Voilà. qui est qui avec réédite. Un crime aussi. Voilà. C'est les deux romans, justement, Un crime et Un mauvais rêve, avaient été réédités en même temps. Dans le même livre, oui.
Jean-Pascal, as-tu, vous disiez que vous étiez, il nous reste 1 minute et 10 secondes, vous disiez que vous étiez en train d'adapter une autre œuvre de Bernanos.
Oui, je suis, j'ai écrit un scénario avec Raphaël de Pléchin, un scénario de long métrage, parce que je suis réalisateur de films, de fiction, aussi de documentaires, mais, et du coup, Un crime fait partie de mes projets, c'est un peu difficile à monter. Mais bon, je désespère pas et voilà, c'est en tout cas a priori pour le cinéma. Voilà.
Parfait. Eh bien, merci beaucoup Jean-Pascal Attu. Ah, merci beaucoup François
Jolier. Merci infiniment.
Merci à vous. Nous a déjà quitté car elle était appelée ailleurs. Et oui. Merci à vous tous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés sur Radio Courtoisie. Et demain, vous avez rendez-vous dans Restons Courtois avec Romaric Sangar.
Ça suffit maintenant.